Amen. Amen. Merci. Merci, Père. Merci, Seigneur. Ce matin, j'avais à cœur de vous partager une prédication qui n'est pas ce que j'avais prévu, mais qui est autour des passages Exode 32 et 33. Et que j'ai intitulé « Un Dieu saint qui fait grâce à son peuple ». Je pense qu'au travers de l'Exode, qui nous raconte comment Dieu a délivré son peuple élu de l'esclavage des Égyptiens, comment par l'intermédiaire de son conducteur Moïse, il lui a promis et l'a conduit vers la terre promise. Si on y voit une préfiguration de l'Église et de Christ, nous avons beaucoup à apprendre. Et ça m'a beaucoup parlé pour l'Église de France et peut-être pour l'Église d'Aubagne, que celui qui a des oreilles entende ce que le Seigneur dit à son Église, qu'il nous ouvre nos oreilles de ce qu'il veut nous dire par sa parole. Il dit que tout est écrit pour nous enseigner. Donc c'est ça que j'aimerais qu'on réfléchisse aujourd'hui au travers de ce texte, c'est comment Dieu peut nous parler dans ce texte. Donc commençons la lecture de premier passage, on va le faire en deux parties, parce que on prend une partie de l'histoire, Exode 32, 30 à 35. Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. Peut-être obtiendrai-je le pardon de votre péché. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. » Ils se sont faits des dieux en or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi du livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple à l'endroit que je t'ai indiqué, mon ange marchera devant toi, mais le jour où je interviendrai, je les punirai de leurs péchés. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau, celui qu'avait fabriqué Aaron. Jusque-là pour la première partie. Quelle incroyable histoire, quelle terrible histoire. Et ça m'a toujours marqué, je me dis, mais c'est pas possible. Comment c'est possible que ce peuple, délivré par la puissance du Dieu vivant de l'Égypte, où ils étaient en esclavage, ils voient la mer Rouge s'ouvrir, enfin ils voient tous les miracles avant quand même, hein, de Dieu des plaies d'Égypte. Il s'en va, il suit, mais plus que ça, Moïse monte sur la montagne et il voit et il leur envoie les commandements par son serviteur. Il voit en plus la gloire de Dieu, il voit sa puissance, hein, vous vous souvenez tous ces passages, on ne va pas relire tout, mais on a besoin de voir l'histoire. Mais comment ce peuple peut faire cela? Parce que Moïse tardait à descendre, ils disent à Aaron, faisons un veau d'or et adorons-le. Mais ils avaient reçu la parole, ils avaient reçu les commandements. Et le premier des commandements, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, toute ta force, tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul, et tu ne feras pas d'image taillée. La première chose. Et en plus, ils avaient accepté ça comme une alliance. Je lis Exode 24, 3. Moïse va rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel dit. Le peuple avait dit ça. Et pire, Exode 24, 7, il prit le livre de l'Alliance, le lut en présence du peuple et il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple. Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. C'est, des fois je le dis, c'est incroyable. Quelle abomination aux yeux de Dieu. Ils ont fait l'alliance, ont mis le sang, Moïse consacré, ils ont vu la gloire. Et bien, mon message c'est des fois, je me dis que l'Église de Jésus-Christ a fait exactement la même chose que le peuple juif. Et bien souvent, Elle a promis d'obéir au commandement de Dieu. Commandement de Dieu, en aimant Dieu de tout ton cœur, de toute son âme, de toute son intelligence, et d'aimer son prochain comme soi-même. Or, malgré cela, combien de fois dans l'histoire, mais maintenant aussi, l'Église, et je parle tous les types d'Église, y compris l'Église évangélique, a choisi la richesse plus que Dieu. Elle s'est souvent divisée, déchirée, ne montrant aucun amour pour son prochain. Elle a ainsi trahi les deux premiers commandements de Jésus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais ce qui m'étonne le plus, moi, c'est ce que fait le serviteur de Dieu, Moïse. Ce peuple, je ne sais pas, on a envie de lui dire, non mais ce n'est pas possible, hein. Dieu veut le punir, punis-le. Ce qu'il dit, il intercède pour la clémence de Dieu. Et plusieurs fois, il va intercéder. Et en plus, il dit une chose incroyable, si vous l'avez noté dans ce passage. « Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Pardonne, sinon efface-moi. Mais qui peut dire ça? Quel serviteur de Dieu consacré, quel pasteur consacré peut dire pour son peuple, « Seigneur, pardonne-leur, sinon efface-moi de ton livre. » Réfléchissons à cette parole de Moïse. Eh bien, il y a quelqu'un qui a fait ça. Il y a quelqu'un qui a fait ça. Un pasteur qui a fait ça, un berger qui a fait ça. Le bon berger, Christ. C'est ce qu'il a fait. Pardonne ton Église. Sinon, je meurs. Et lui, il est allé jusqu'au bout, parce que Moïse, on va voir, il n'est pas mort, mais Jésus, lui, il est mort. Il est vraiment mort et ressuscité. Nous parlons de la résurrection, mais il est mort et ressuscité. Mais quand il est mort, il dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il donne, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce peuple est un peuple au cou raide. Des fois, je dis, ils ont le cou raide. Des fois, on a envie de s'énerver. Eh bien, il y en a un qui l'a fait. Alors, que va faire Dieu? C'est ce qu'on veut lire dans la suite. C'est ça mon message pour nous ce matin. Un message important sur la gloire de Dieu. Certes, pour le peuple juif, il y a une punition immédiate, on ne le voit pas dans ce passage, mais juste avant, si vous voyez, il faut lire tout l'Exode, juste avant l'Exode 32, dans la suite d'Exode 32. En fait, ils disent, à Moïse, il dit, je demandais pardon, mais il dit, qui veut me suivre? Ils ne vont pas tout suivre, c'est le peuple des Lévites, les Lévites qui vont le suivre. Et ils vont tuer tous les autres par le fil de l'épée. Je sais que c'est très violent dans l'Ancien Testament. Mais Dieu, tous ceux qui ne veulent pas suivre, ils sont tués. Donc ils sont 3000 à suivre, ce sont les Lévites. Mais même pour ceux qui restent, donc ceux à qui Moïse est en train de parler, ce sont les Lévites. Dieu dit, le jour où j'interviendrai, je les punirai de leurs péchés. Alors c'est quoi la punition? Qu'est-ce que c'est que quelle est la punition? C'est ce que nous allons voir dans la suite de la lecture. Et donc, je vais lire toute la suite. Exode 33, versets 1 à 20. Que le Seigneur nous parle dans ce qu'il a voulu nous passer dans ce message. L'Éternel, vas-y, pars d'ici avec le peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta descendance. J'enverrai un ange devant toi et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. En revanche, je ne monterai pas au milieu de toi. Car tu es un peuple réfractaire. Je ne sais pas là, il y a des versions qui disent, qu'on comprend, tu es un peuple, un cou raide. À un moment, Moïse, il dit, Aaron, il dit, mais tu le sais, ils sont toujours penchés vers le mal. Ils ont le cou raide. Il dit, car tu es un peuple réfractaire, et je risquerai de te faire disparaître en chemin. Lorsque le peuple entendit ces paroles de malheur, il prit le deuil. Et personne ne mit ses ornements. L'Éternel dit à Moïse, « Dis aux Israélites, vous êtes un peuple réfractaire ou un peuple courraide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te détruirais. Retire maintenant les ornements que tu portes et je verrai ce que je te ferai. » Alors, les Israélites se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Moïse prit la tente et la dressa à l'extérieur du camp. À une certaine distance, il l'appela « tente de la rencontre ». Tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente de la rencontre, à l'extérieur du camp. Lorsque Moïse se rendait à cette tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de la tente et le suivait des yeux jusqu'à ce qu'il ait pénétré dans la tente. Lorsque Moïse avait pénétré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter à l'entrée de la tente. Et tout le peuple se levait et adorait. Chacun à l'entrée de la tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, tandis que son jeune assistant Josué, fils de Noun, ne sortait pas de la tente. Moïse dit à l'Éternel, « Voici que tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. » Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, c'est Moïse qui parle. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Regarde, cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Je vais te redire. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux ainsi que ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai aussi ce que tu me demandes là, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce. Et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. Et il ajouta, tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il parle à nos cœurs. Alors, cette sentence de Dieu, je ne sais pas si vous l'avez compris, c'est que Dieu dit, j'ai promis à mon peuple d'aller dans le pays de Canaan. C'est la terre promise. Et ça, il a fait alliance avec Abraham et ses descendants. Et à Moïse, c'est renouvelé. Abraham, Moïse. Mais, il dit, je ne marcherai pas au milieu de vous. Je ne peux pas. Je vous tuerai, je suis saint. Parce que, mais ça, c'est une tragédie. Que fait le peuple? Il prend le deuil. Il enlève ses ornements. Il se prosterne. Il réalise que Dieu ne marchera pas avec eux. Et ça, c'est pourquoi c'est un drame, parce que Dieu avait promis aux Israélites sortis de l'esclavage qu'il marcherait avec eux. On le lit par exemple dans Exode 29, 45, 46. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel leur Dieu. Le but de Dieu, c'était d'habiter au milieu de son peuple pour qu'il soit un peuple témoin à toutes les nations du monde que Dieu est Dieu et qu'il soit au milieu d'eux. Et il leur a promis d'aller dans une terre promise. Et Dieu dit, non, non, ils m'ont trahi, j'irai pas au milieu d'eux. Alors on va se dire, c'est la fin. Si Dieu ne marche pas au milieu du peuple, c'est la fin du peuple. C'était ça l'objectif. L'objectif, c'était de restaurer ce qu'on a perdu au début dans le jardin d'Éden, la relation avec Dieu, et c'était au travers de son peuple. Donc c'est fini. Que fait le peuple ? C'est peut-être un enseignement pour nous. Deux choses. Premièrement, je vous l'ai déjà dit, mais ils se dépouillent de leur or. C'est-à-dire, ils s'humilient dans la face de Dieu. Ils comprennent la gravité de leur péché. Alors ils se débarrassent de l'or, de ce qu'ils ont. Ils ont compris que c'était pas ça que voulait Dieu. Et deuxièmement, ils ont Moïse. Et Moïse va dresser la tente non plus dans le camp, j'irais dans l'église, à l'extérieur du camp. Et on comprend que Dieu à ce moment-là ne peut plus être avec eux. Mais malgré l'idolâtrie, qu'est-ce qui se passe ? Malgré ce qu'ils ont fait, malgré le péché, malgré la rébellion, Dieu continue de venir à la tente de rencontre par l'intermédiaire de son serviteur Moïse. Le peuple, lui, est dans le camp, il voit Moïse de loin, et quand Moïse va dans la tente, il voit le Dieu vivant. Le texte nous dit que Moïse parlait face à face avec Dieu, comme on parle à un ami. C'est ce qui est écrit, comme on parle à un ami. Il parlait avec Dieu comme on parle à un ami. Alors, est-ce qu'il voyait la face de Dieu ? Vous avez vu qu'à la fin, il a dit, personne ne peut voir ma face, sinon je te consumerai. Donc non, mais il était dans l'intimité plutôt de Dieu. Il pouvait lui parler et Dieu écoute. Et grâce à cette intimité gardée par le serviteur de Dieu auprès de Dieu, il continue d'intercéder pour ce peuple au Coured. Le serviteur de Dieu continue à intercéder pour le peuple qui a désobéi. Alors, n'est-ce pas, et le parallèle de tout ce que nous apprend, la même chose pour l'Église. Souvent, je pense à l'Église de France, mais l'Église, aujourd'hui, ce qu'il faut se faire, ça c'est en tant que peuple, se repentir de ses péchés, de ses veaux d'or, et souvent qu'un serviteur consacré qui parle dans l'intimité continue à intercéder pour ce peuple. Mais nous en avons un d'intercesseur. Et il est le chef de l'Église. C'est ce qui est écrit en Romains 8, 34. Qui les condamnera ? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Il intercède pour son Église. Il va loin, Moïse. Il remet en question. Il dit, je vous l'ai dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, nous ne fais pas partir d'ici. Il refuse que Dieu donne la bénédiction, la grande bénédiction d'avoir la terre promise, d'avoir son territoire, s'il ne marche pas avec eux. C'est ça que voulait Dieu. Non, 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 moi je veux que tu marches avec nous. Il ne lâche pas l'affaire, Moïse. Le serviteur, ça me marque le serviteur, souffrant pour son peuple. À quoi servirait-il au peuple d'Israël d'aller vers la terre promise si Dieu n'est pas au milieu d'eux ? À quoi servirait-il à l'Église de Jésus-Christ d'aller au ciel si Dieu n'est pas au milieu d'elle ? Alors oui, grâce à l'intercession de Moïse, et malgré son péché, Dieu va accepter de marcher au milieu du peuple juif jusqu'à la terre promise, qui montre, si vous vous souvenez bien, qu'à ses descendants. Ils ont quand même la punition, ce n'est pas eux, ce sont leurs descendants qui envoient la terre promise. Mais Dieu les bénit dans leur descendance. Alors oui, grâce à Jésus-Christ, malgré nos péchés, Dieu va accepter de marcher au milieu de son Église, là, jusqu'au royaume des cieux. Et il y a deux conditions. Si nous nous repentons, qui fait pour nos veaux d'or? Et si nous acceptons de le suivre en lui demandant d'intercéder pour nous? C'est ça le bon berger. Il est le bon berger. Il donne sa vie pour ses brebis. Il intercède. Il n'a pas laissé que son église soit abandonnée si nous nous repentons et si nous lui demandons d'intercéder pour nous. Et le verset 16 nous rappelle pourquoi c'est le plus important pour le peuple de Dieu. Ce qui nous rend différents, c'est que tu marches au milieu de nous. C'est ça. C'est pas le fait que nous soyons différents qui fait que nous sommes l'Église, c'est que Christ marche au milieu de nous qui fait que nous sommes l'Église. C'est que Jésus soit au milieu de nous. Et c'est bien ce que nous dit à multiples reprises les apôtres, nous-mêmes Jésus. Apôtre Paul, 1 Corinthiens 14, 24 à 25. Pardon, je dis comme ça. Oui. Ce qui devrait se passer, c'est ce que nous encourage l'apôtre Paul dans la construction de l'Église. C'est que si quelqu'un qui ne connaît pas Dieu entre maintenant dans l'Église, il voit la gloire de Dieu se manifester et qu'il tombe face contre terre parce qu'il voit l'Église. Voici le témoignage de l'Église de Jésus-Christ. Il est dit dans Paul à 1 Corinthiens, donc 14, 24, 25, « Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. » Ou comme l'a dit Jésus lui-même en Luc 17, 21, « Le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Voilà le but de l'Église, c'est que Dieu marche au milieu de nous. C'est cela qui devrait se passer quand quelqu'un fait l'expérience d'une communauté transformée par Jésus-Christ, par la présence. Il voit Dieu, il voit la présence de Dieu au milieu de son Église. Et aussi le voit à notre manière de vivre. Alors oui, c'est par l'intercession de son serviteur Moïse qu'il le fait. Et il le fait parce que lui, Moïse, avait trouvé grâce à ses yeux. Et nous, il le fait parce que Jésus intercède pour nous. Et là, on peut se dire, c'est bon, Moïse, tu as eu ce que tu voulais. Serviteur, tu as eu ce que tu voulais. Dieu au milieu, il a fait, il a dit qu'il a sa vie. Mais que va dire au verset 18? Moïse dit, fais-moi donc voir ta gloire. On veut dire, Moïse, là, t'en as eu assez de Dieu quand même là. Non, il dit, fais-moi voir ta gloire. Peut-être vous avez déjà eu cette parole dans l'Église. Jésus, fais-moi voir ta gloire. Ou peut-être vous dites, non, là, c'est quel toupet. Quand même, il en fait trop. Non, je ne voudrais pas, Jésus, que tu montres ta gloire. Vous savez, si on ne demande pas à Jésus de nous montrer sa gloire, il ne nous la montrera pas. Hein. Si vous voulez boire, alors, il faut demander à Dieu de nous montrer sa gloire. Mais que va répondre, et ce qui est très intéressant, quand il lui demande sa gloire? Et c'est ce qu'il va répondre. On peut dire, non, si tu nous montres ta gloire, si Dieu nous montre la gloire dans son Église, nous serions consumés à l'instant. C'est ce qu'il dit après à Moïse. Il lui répond, tu ne pourras pas me voir directement, sinon je te consumerai. Si Dieu vient maintenant, il faut demander et qu'on le voit directement, nous sommes consumés parce que sa sainteté va nous consumer instantanément. Tu ne pourras pas voir directement, sinon je te consumerai. Moïse voulait voir la gloire de Dieu, mais regardez ce que Dieu répond. L'enseignement pour nous, le troisième enseignement, après la repentance, après la prière du serviteur, il dit, en Exode 33, 19, l'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Peut-être on peut comprendre que la gloire de Dieu, c'est sa bonté. Et que sa bonté passe devant son Église. La gloire de Dieu, c'est la bonté de l'Église pour le monde. La bonté de l'Église pour le monde. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. N'est-ce pas le message donné à l'Église de Jésus-Christ ? Allez et faites de toutes les nations des disciples. Voici la gloire de Dieu. La bonté de l'Éternel manifestée tant et si bien que celui qui rentre est touché par la bonté de Dieu dans l'Église de Jésus-Christ. Voilà. Et la proclamation de l'Évangile. Et nous, cette gloire, nous l'avons eue parce que nous, nous avons vu quelque chose que Moïse n'a pas vu, ou même s'il l'avait vu. Il nous l'est dit là. Jésus dit en Matthieu 13, 17, « Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Voici, nous avons vu la gloire de Dieu, déjà. En fait, ils ont rêvé de le voir. Mais que faisons-nous ? Nous devons que devant l'Église marche sa bonté et la proclamation de l'Évangile, afin que tout genou confesse qu'il est Christ et Seigneur. Deuxièmement, cette parole incroyable, « Je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. » Ça veut dire que Dieu fait ce qu'il veut et c'est Dieu qui choisit à qui il a fait grâce. Je sais que ces questions qui reviennent maintes fois nous déstabilisent souvent. Mais c'est ça la grâce imméritée de Dieu. C'est ça le message de l'Église. Ce message qui est donné à Moïse, c'est ça que nous proclamons, le fameux sola gratia, seule la grâce. C'est plutôt, on n'arrive pas bien à le comprendre, mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, que ce soit Dieu qui ait décidé de nous sauver. C'est pas nous. Peut pas, c'est la grâce imméritée de Dieu. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que je suis pas sûr qu'on ne nous aurait fait grâce comme on n'aurait pas envie de faire grâce au peuple juif qui a fait le veau d'or. Je sais pas si vous avez envie de lui faire grâce. Je suis pas sûr que sans Jésus-Christ, on se serait fait grâce ou on ferait grâce à son Église. Mais c'est Jésus. Jésus va... Dieu a renouvelé son alliance avec le peuple juif grâce à son serviteur Moïse. Et de la même façon, Dieu va faire grâce à l'Église évangélique malgré nos manquements et nos errements. Mais il nous faut obéir et il nous faut nous repentir et il nous faut lui demander de voir sa gloire. La gloire, nous l'avons, est d'être au milieu de nous. Jésus est le bon berger. Il a donné sa vie pour ses brebis. Il nous conduit vers de verts pâturages. Alors, prions aussi pour les hommes et femmes consacrés qui sont envoyés comme serviteurs imparfaits de Dieu pour guider l'Église de Jésus-Christ. Encourageons-les. Il est dit prier le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers. Parce que chacun a des appels différents, mais ne maîtrisons pas l'appel des pasteurs qui sont là et qui reçoivent une vision pour prier et intercéder pour l'Église de Jésus-Christ. Heureusement, Jésus intercède. Jésus est le bon berger. Il a donné sa vie pour toi, pour moi. Je suis imparfait. L'Église est imparfaite. Mais il nous rappelle, si nous nous repentons, si nous voulons sincèrement marcher avec lui, il sera là, au milieu de nous. Et c'est lui qui va conduire si nous le cherchons de tout notre cœur. Si ce matin, ces paroles ont résonné, soit dans ton cœur personnellement, si tu ne savais pas comment suivre ce divin berger, si tu penses que oui, tu ne te pardonnerais pas, je veux renouveler que Jésus t'a fait grâce par l'intermédiaire comme à Moïse et qu'il t'aime. Il y a plusieurs qui dans leur cœur ont des souffrances et je veux leur dire, le Seigneur veut t'en délivrer ce matin. Le Seigneur veut te libérer de ce qui te fait mal dans ton cœur et il a la puissance parce qu'il va te faire marcher vers de verts pâturages. Parce que l'Éternel est ton berger, parce que l'Éternel t'aime, parce qu'il t'aime plus que tout, parce qu'il aime l'Église évangélique d'Aubagne, parce qu'il l'aime, il veut te montrer sa gloire. Si tu as entendu, si tu as cet appel, si tu sens que tu veux avancer vers Jésus-Christ, viens nous voir à la fin du culte avec Hélène. Et même si parce que tu te disais, non, je ne sais plus, oui, je souffre. Je sens que cette souffrance, je veux te dire, nous voulons voir la gloire de Dieu dans l'église d'Aubagne. Nous voulons voir, voulez-vous voir la gloire de Dieu? Est-ce qu'on est prêt à demander à voir la gloire de Dieu dans l'église? Mais si nous demandons la gloire de Dieu, il est le Dieu qui sauve, qui délivre. Nous sommes imparfaits. Aussi, si tu veux, si vous, même si tu as donné ta vie à Jésus et que tu veux te sentir libéré, si tu veux avancer, si tu es souffrant, je peux aussi t'encourager à venir nous voir après le culte pour qu'on prie. Pour le Dieu Louis-Saint, il intercède pour nous. Maintenant, Seigneur, manifeste ta gloire dans notre assemblée imparfaite. Manifeste ta gloire dans l'église d'Aubagne. Manifeste ta gloire dans chacun qui est là, par ta bonté et par la proclamation de l'évangile de Christ. Amen.
Amen.
Que Dieu bénisse sa parole.
Amen.